le président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de la Fayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, quand ici ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse, tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse, vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous voilà de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois Thomas Lindemann. Thomas, bonjour.
Bonjour.
Alors, je te reçois pour un livre que tu as fait avec Shoshana Fein, La violence au nom de la loi, publié à Sciences Po Les Presses. Alors, nous allons aborder le sujet de l'école de Francfort, Walter Benjamin, Marcuse, et la violence au nom de la loi, surtout. Parce que dans votre ouvrage, vous avez un propos provocateur, rien que moins que ça. Vous dites que l'état de droit justifie ou dissimule la violence par le droit. Donc, avant d'aborder le cœur de ce sujet, et les deux cas pratiques que vous avez choisis, le bombardement par l'OTAN de la Libye, et la mort des migrants dans la Manche. Je voudrais, Thomas, que tu présentes Shoshana, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, ton éditeur, et après, l'école de Francfort.
Alors, trois choses. Hein. C'est plus facile de présenter Shoshana Fein, hein, qui est la co-autrice, qui est spécialiste de questions migratoires, et qui est en poste à l'Université catholique de Lille. Et voilà, qui est d'origine britannique, donc elle est connue dans le monde anglophone aussi pour ses publications. L'éditeur Brest Sciences Po, c'est un éditeur, entre guillemets, académique. Hein,
très académique.
Très académique, et c'est vrai, peut-être l'écriture est un peu aride, hein, tu l'avais remarqué, donc universitaire. Maintenant, pour peut-être la troisième question, l'école de Francfort, hein, dont ça correspond à beaucoup de générations, de moments différents, de cadrages conceptuels aussi différents, mais si on devait dire une chose, c'est que fait l'école de Francfort, bien sûr, elle s'intéresse, comme les écoles critiques, disons, aux mécanismes de domination, aux idéologies de domination. C'est une autre école, entre guillemets, qui chasse littéralement le mythe. Et peut-être un peu à la différence des autres écoles, elle prend en considération, disons, très souvent, l'aspect qu'on peut qualifier de, d'infrastructure dans le marxisme classique, hein, c'est-à-dire le droit, dans le cas de Benjamin. Donc c'est qu'on considère parfois un peu comme accessoire, devient peut-être chez Benjamin, en tout cas, une sorte d'infrastructure dans le droit, et non seulement le reflet, en quelque sorte, d'une domination, mais c'est aussi même une sorte d'infrastructure, parfois peut-être comparable à, on peut dire, oui, à l'infrastructure capitaliste, en tout cas, un peu difficilement de séparer. Alors, pour le dire autrement, dans le cas de Benjamin, en tout cas, c'est un peu plus Kafka, parfois, donc c'est Marx plus Kafka.
Parfait. Alors là, je retiens. Oui. Marx plus Kafka. J'adore Kafka, donc c'est très bien. Alors, comment vous avez pris la décision de choisir ces deux cas, le bombardement de la Libye par l'OTAN et le naufrage des migrants dans la Manche, pour qui relève. Alors, pour le cas de la Libye, ça relève du droit naturel, et pour le cas des morts dans la Manche, du droit positif. Il faudrait peut-être aussi expliquer droit positif, droit naturel, et comment vous avez choisi ces deux cas pour illustrer le propos de votre ouvrage, La violence au nom de la loi.
Oui, alors là, plusieurs questions, bonnes questions. Pourquoi ces deux cas? Alors tout d'abord, c'est une construction un peu par hasard, parce que Shoshana travaille plus sur les questions migratoires, moi je travaille sur la guerre, donc le cas de 2011 Libye et le mort dans la Manche 2021, a priori, relève de deux logiques très distinctes. Mais dans la conversation, on s'est rendu compte que le droit joue un rôle primordial dans les deux cas, pour donner un chiffre très quantitatif, hein, oui. À peu près 60% de l'argumentation pour justifier la mort de migrants et puis le bombardement en Libye relève de registres légaux. Ce qui en soi surprenant, d'où notre interrogation si ces deux sphères très disjointes, à part qu'il s'agit là des extranationaux, n'est-ce pas,
oui.
Dans les deux cas.
Ouais, dans les deux cas, oui.
Donc comment on peut comprendre qu'il y a une sorte de similitude dans le registre des légitimations. Donc on peut estimer, et c'était cela un peu notre thèse, si dans deux cas très dissemblables, de sphères très différentes, il y a même registre de légitimation, donc pas le droit doit être très puissant comme mode de légitimation, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas limité uniquement à une sphère particulière. Donc c'est ça, un peu notre intérêt. Et donc du coup, on a à la fois mené des entretiens avec les acteurs, donc il y a même le ministre Darmanin qu'on a eu, le chef d'état-major, on a eu des entretiens, on a exploré donc différents, tous les documents relatifs à la justification de mort en Libye 2011 et puis en 2021 pour la mort des migrants. Maintenant, tu as déjà en quelque sorte pointu vers une différence quand même en termes de justification par le droit. Et donc, ce qui peut-être pour les auditeurs pas très clair, c'est que le droit peut d'abord être perçu comme étant positif, purement positif. C'est-à-dire, on considère que le droit existant comme quelque chose qui doit valoir, donc la moralité se confond un peu avec le droit existant, Et ça, c'est le cas, disons, pour la mort des migrants. Donc, on dit la loi existe. Donc, il y a, par exemple, la protection de frontières. Il y a une définition de migrants illégaux. Donc, si quelqu'un viole la loi, c'est qu'il est coupable. Donc, la moralité se confond avec le droit positif. Dans le cas de la Libye, il y a aussi le droit positif, donc on se réfère à la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais en même temps, il y a une référence très claire aux droits humains, au devoir de la communauté internationale, soi-disant, de protéger des populations menacées par, en l'occurrence, par Kadhafi. Mmh. Et donc, on pourrait penser, a priori, là, c'est une bonne chose, hein, protection de l'humanité, entre guillemets. Mais ce qui montre ces cas, c'est que même ces droits, soi-disant naturels, donc qui se présentent comme éternels, sont politiquement exploités, instrumentalisés. On évacue, en quelque sorte, avec ces types de raisonnement, de conséquences réelles sur le terrain, c'est-à-dire de mort, en disant on agit conformément à la résolution. On se bat pour le droit humain. Après, on ne regarde plus, entre guillemets, les souffrances réelles, donc à la fois population. La population, et aussi, il faut dire, l'infrastructure, n'est-ce pas, l'infrastructure, l'habitat, tout ce qui entoure donc une vie humaine.
Tout à fait. Alors, donc, on va comprendre par ton livre, votre livre, ouais, tous les deux, qu'il y a des schémas récurrents. Est-ce que tu pourrais commencer à nous expliquer chapitre par chapitre, parce qu'il y a, quatre chapitres dans votre livre, avec la conclusion, quels sont les schémas récurrents dans le premier cas, le bombardement par l'OTAN de la Libye, les schémas récurrents de la violence au nom de la loi. Comment, petit à petit, on arrive à, sous prétexte de sauver des populations d'un tyran, à les bombarder et à les tuer, quelque part. Et à trouver ça normal et légitime.
Oui, alors, la question se pose plus concrètement, comment on utilise le droit, n'est-ce pas, pour justifier des violences. Donc, il ne s'agit pas, donc, il faut dire, nous deux sommes politistes, donc Shoshana est aussi politiste que moi, donc nous avons un intérêt plutôt, disons, sociologique, hein, comment les acteurs se servent, entre guillemets, de croyances, ce qu'on associe généralement au droit, pour légitimer leur action. Alors, ce qu'il faut peut-être d'abord dire, c'est que nous apportons, et ça peut paraître un peu compliqué, parce que généralement, on admet que le droit peut être, disons, problématique, n'est-ce pas? Donc, il y a un contenu. Par exemple, maintenant, la loi sur la présomption de l'innocence de
des policiers. Forces de police.
Voilà,
c'est problématique.
C'est problématique, voilà. Tout le monde est d'accord. Bon, ça, est banal de dire qu'une dictature, une démocratie, parfois les lois sont injustes. Mais notre propos va aller plus loin. On considère qu'on se sert souvent de la forme même de droit. Donc, ça peut paraître, donc, s'inspire de Walter Benjamin, de la forme même de droit pour paraître les actions politiques légitimes. Alors, que veut dire par forme de droit ? Donc, c'est moins le contenu que la forme. Mm-hmm. Et donc, là, je viens aux trois figures que nous avons identifiées. Donc, je ne vais pas maintenant utiliser le terme qu'on a
identifié.
Un peu compliqué. Identifié. Disons, il y a trois figures. Il y a d'abord, le droit se présente comme, peut se présenter comme universel. Mm-hmm. Hein, donc, on dit souvent, le droit s'applique à tout le monde. Donc, c'est juste et moral. Donc ça, c'est une première topos, alors que tout le monde sait, enfin, dans la pensée critique, hein, depuis Marx, Benjamin, que, pour citer Anatole France, lorsqu'on interdit aux riches et aux pauvres de dormir sous le pont, c'est pas la même chose.
Tout à fait.
Dans des conditions inégales, dire que quelque chose est universel et donc juste est hautement problématique. Et donc, cet topos de l'universalité de droit, on le trouve de manière paradoxale, bon, aussi bien dans le cas libyen, bon, niveau, en quelque sorte, une norme de protection très abstrait, hein, qui fait disparaître aussi le peuple réel libyen, en disant, on se bat pour le peuple démocratique et on fait semblant comme si la bombe tombe uniquement sur des gens qui sont, entre guillemets, de rogue actors, hein, de rogue states, ou comme on dit, hein, des états voyous, ou de sympathisants des états. Voilà, on évacue beaucoup de choses aussi avec ces généralités. Donc ça, c'est un premier topo pour la question migratoire que Shoshana a plus étudiée. C'est encore plus pervers, parce qu'on dit qu'ils violent donc la loi, alors que bien évidemment, pour nous, donc je dis à nous, hein, maintenant situés en Occident, ici dans un pays prospère, français, allemand, etc., c'est beaucoup plus facile de respecter, entre guillemets, les frontières. Que pour quelqu'un qui vit dans un pays misère, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et ça, en Gomme, donc, on traite le migrant comme de criminel, donc c'est une perversité, donc ça c'est une première chose que nous avons détectée. Donc ça, de faux universalisme, donc on n'est pas contre l'universalisme, on est pour, mais l'universalisme tel qu'il se présente est fictif en quelque sorte, hein, purement formel. Donc ça c'est une première topos. Une deuxième topos est ce qu'on peut qualifier de raisonnement, je veux dire, déductif grâce au droit, c'est-à-dire souvent on présente quelque chose comme logique grâce au droit. Donc il y a ce qu'on appelle syllogisme, donc on dit, par exemple, telle ou telle personne ou groupe de personnes appartiennent à telle ou telle catégorie légale. Et pour cette catégorie légale, doit automatiquement s'appliquer telle ou telle loi. Ouais. Et on trouve dans cet enchaînement logique, dans le cas, bien sûr, des migrants. Donc l'idée, c'est que, voilà, ils ne remplissent pas de critères, par exemple, pour être
régularisés.
Voilà, être régularisés. Du coup, ils n'ont pas le droit d'être ici. Et comme ils n'ont pas le droit d'être ici, bon, il faut les expulser, donc il y a de choses prévues.
Et ils se soustraient à ça en essayant de... En mettant leur vie en danger, donc ils ne méritent pas, quelque part.
Ils
ne méritent pas la compassion, ni qu'on s'occupe de quelqu'un.
Voilà, et ça conduit à ce qu'on appelle une vision tunnel, c'est-à-dire on ne voit que le droit. C'est-à-dire le droit devient le benchmarking moral pour juger la vie d'un migrant ou d'une population soumise à des bombardements. Donc on évacue la complexité même de l'expérience humaine sur un seul aspect. Voilà, donc c'est une sorte de fétichisme des droits induit par la logique. Et un troisième topos, c'est ce qu'on peut dire la capacité de raisonnement légal se présenter comme purement impersonnel. Donc on dit, ça ne s'applique pas à Jean-Pierre ou à une personne particulière, donc, mais le droit, par définition, est impersonnel, donc objectif. Et ce caractère impersonnel que Max Weber avait déjà mis en avant, la domination légale rationnelle, conduit à considérer quelque chose comme juste ou moral parce que c'est, entre guillemets, objectif. Et dans le cas, maintenant pour le dire plus concrètement, dans le cas, donc si on contraste maintenant le cas de migrants et de la Libye, donc, on a très bien vu, bien sûr, ça c'est connu, que souvent, ce caractère impersonnel peut neutraliser l'empathie. Donc, ça c'est relativement banal. Pardon, on dit, voilà, ça c'est une chose. Mais une autre chose, ce qui peut-être, c'est que nous apportons, c'est que nous montrons, c'est que dans le cas de Libye, ce caractère impersonnel peut aussi conduire à une sorte de fétichisation du droit, peut conduire à faire du droit quelque chose de noble, fin absolue, et ceux qui s'investissent dans la mission de droit sont émotionnellement investis. Donc, à la fois, on neutralise l'empathie avec le droit, mais aussi on donne aux gardiens de droit une fierté de présenter l'autre. Donc ça, c'est un autre effet émotionnel qui est peut-être oublié, hein, que le droit peut à la fois neutraliser les émotions, donc considérant les hommes sous l'aspect de catégorie juridique, mais de l'autre côté, il peut aussi activer les émotions, par exemple la fierté de présenter l'ordre, comme le force de l'ordre maintenant.
Ah oui,
comme on disait, l'ADN, la présomption de l'innocence, etc., qu'on dit, ce sont des héros, l'ADN est protégé, etc., la fierté d'appartenir à une institution. Donc ce sont ces trois, disons...
Structures.
Et on a dit, voilà, on ne dit pas que tout droit est mauvais, mais si le droit se présente comme quelque chose d'extérieur à l'être humain, comme quelque chose qui devient une finalité suprême, indépendamment de ses conséquences sur la vie humaine, là, c'est hautement problématique.
Bon. Merci Thomas. On va faire une pause et on va revenir sur les autres chapitres du livre.
The birds, they sing. Again, I heard them say, don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Asked for signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs were all to see. Run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. That still could ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Strike up the march. There is no drum. Every heart to love will come. But like a refugee, ring the bells that still. A crack in That's how the light gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in.
Chers auditeurs de La Rage de Don, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Thomas Lindemann pour le livre qu'il a fait avec Shoshana Fine, La violence au nom de la loi, à Sciences Po Les Presses. Je voudrais qu'on revienne, Thomas, sur le chapitre 3 qui a pour titre « La loi, la violence et le problème de la pensée logique ». Le droit reflète la logique et il produit aussi la logique. Et je voudrais qu'on on s'attarde sur l'exemple que vous citez dans le livre de Hannah Arendt, La banalité du mal, page 86. Cet exemple en particulier, ce qu'elle dit sur Eichmann, et notamment la plupart des articles qu'elle a écrits sur Eichmann à Jérusalem, le procès, lorsqu'elle a été au procès.
Mmh. Oui, très bon exemple. Alors, pour venir à Hannah Arendt, disons, si on prend Eichmann, l'Eichmann réel, oui. Il est un peu différent de l'Eichmann décrit par Hannah Arendt, hein, parce oui. qu'on a trouvé des historiens qui avaient des convictions idéologiques assez fortes,
Forte, hein,
antisémitisme assez enraciné. Mais bon, si on prend quand même comme modèle de pensée, ce que dit Hannah Arendt, c'est que Eichmann agit en sorte de conformité par rapport à un ordre hiérarchique. Hein. Donc mm-hmm. il obtient un ordre et son seul souci, c'est l'efficacité, ce qu'on appelle on peut dire la raison instrumentale. Donc la raison se réduit à choisir le meilleur moyen pour une fin donnée qu'on n'est pas en question. Donc l'hiérarchie a déterminé ceci ou cela et je m'exécute, je extermine efficacement entre guillemets les juifs et on peut soi-disant, comme le disait sa petite fille, n'est-ce pas, récemment a dit, c'était un excellent grand-père
un père et un grand-père aimant.
Mais alors notre raisonnement est un peu différent. Alors pour de deux manières, je dirais. Donc là, si on vient par la logique, hein,
oui.
C'est-à-dire premièrement les acteurs qui se réfèrent dans notre ouvrage au registre juridique, sont de hauts responsables politiques.
Tout à fait.
Par définition, ce sont des acteurs. Et je dirais, une différence principale, c'est qu'ils créent souvent les conditions juridiques. Donc, ils sont bien conscients que le droit est quelque chose de variable, que ça ne tombe pas du ciel. On peut dire, sans être dans la conspiration, n'est-ce pas, mais ils sont des acteurs, littéralement, du droit. Et donc je dirais notamment parmi ceux qu'on a interrogés, si je prends le ministre de l'Intérieur, il y a un décalage entre son discours qui présente le droit comme quelque chose de logique, d'inévitable, comme une nécessité, et dans l'entretien où il considère le droit plutôt comme une sorte d'obstacle à l'action notamment de réduire le nombre de migrants en France. Donc on voit très bien, donc chez certains acteurs, pas dire de cynisme, une dichotomie entre, n'est-ce pas? Donc, on ne dit pas que le droit, c'est un acteur, c'est mythifié, n'est-ce pas? En quelque sorte, le droit, dont les acteurs sont là, à la différence de Eichmann, dans le modèle Arendt, pas purement passif. Donc, une autre différence, c'est que, avec le modèle Eichmann, c'est qu'au fond, Eichmann obéit parce que c'est conforme à l'ordre hiérarchique.
Oui.
Et là, dans notre registre de légitimation, le droit est perçu comme étant bon, non pas parce que quelqu'un a dit, quelqu'un de supérieur, ceci ou cela, parce que c'est intrinsèquement bon, parce que le droit, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, mm-hmm. se présente comme quelque chose de parfaitement logique. Hein, donc, il y a une sorte de pyramide de droit, donc il y a des principes, voilà, et après, en découle d'autres. Il y a un critère qui permet l'identification d'une situation sous un aspect légal, et puis ce qu'on applique. Donc cela veut dire que les acteurs justifient leur action par des qualités intrinsèques du droit, alors que dans le cas d'Eichmann, c'est plutôt par des qualités intrinsèques de celui qui donne l'ordre parce qu'il a une position hiérarchique.
Tout à fait.
Donc ça, c'est un peu différent.
Et ça explique pourquoi elle a dit la banalité du mal.
Banalité du mal. Et là, je pense que là, c'est peut-être un peu moins banal. Vous savez, les discours, souvent, c'est assez banal, n'est-ce pas, en termes de droit. Parce qu'on justifie, en effet, souvent, il y a une sorte de... Dans le cas des migrants, notamment, désengagement émotionnel, on présente des choses comme étant relativement... de manière détachée, si on parle par exemple de flou, ce qui n'est pas une catégorie juridique, mais migrants et légaux. La logique conduit, enfin c'était ça, là un peu notre point, à faire semblant comme si la réalité sociale peut être logiquement structurée, totalement structurée, c'est-à-dire comme si la catégorie juridique épuise en quelque sorte la définition de la réalité sociale.
D'accord.
Donc comme si on peut décomposer la réalité sociale en catégorie juridique et il suffit de l'appliquer comme s'il n'y avait pas d'incertitude même dans la définition, dans l'application, comme s'il n'y avait pas d'interprétation par des juges, par des autorités. Donc tout ces flous est évacué avec une sorte de croyance que, grâce au droit, on peut structurer, réguler parfaitement la réalité sociale. Alors, pour venir, car là, je suis un peu trop abstrait, n'est-ce pas? Mais je viens maintenant au cas migratoire. C'est que la Shoshana a notamment montré que le discours de mort de migrants est présenté comme quelque chose de purement logique.
Oui.
C'est-à-dire... Au fond, ce sont des gens qui violent la loi. Donc ça, c'est déjà la première raison. Donc ils sont irresponsables, ils sont un peu comme les enfants qui font des bêtises. Deux, ils sont soutenus par des passeurs.
Voilà, qui violent la loi.
Ce sont des criminels qui en profitent.
Et des réseaux.
Et trois, ils utilisent des small boats, donc irréguliers. Et logiquement... Il meurt, donc c'est une sorte de fatalité, nécessité qui découle de cette irresponsabilité. Alors, ce qui est assez parlant, c'est qu'on considère que grâce au droit, on peut, donc si on durcit le droit, le contrôle, etc., on peut remettre de l'ordre dans l'univers.
Pas du tout.
N'est-ce pas? Mais on présente la réalité de telle manière. Et pareil pour la Libye, n'est-ce pas? Où on dit... le problème de violence procède du fait que Kadhafi présente un rogue state, un état voyou, dont il ne respecte pas les règles d'un comité international. C'est vrai, c'est un dictateur, il ne faut pas le dire, mais c'est réduit à cela. Et on considère, lorsqu'on introduit, soi-disant, une démocratie à l'américain, libérale, donc, tout se remet merveilleusement en place de manière quasiment automatique.
Il faut voir que la Libye a été déstabilisée, le Sahel a été déstabilisé, et on écope d'une affaire scandaleuse, qui est l'affaire Sarkozy-Kadhafi, qui a été réglée par le droit, quelque part.
Oui.
Puisque le président, un ancien président de la République a fait 21 jours de prison, et il va peut-être faire 7 ans de prison, si tout va bien, au mois de novembre.
Oui, ça c'est peut-être un paradoxe, en quelque sorte, notre... on n'a pas trop, maintenant, insisté là-dessus. Hein.
Oui.
Donc, il y a bien sûr Fabrice Affi qui l'a démontré. Mais le paradoxe, c'est que les mêmes acteurs...
Voilà.
Qui se servent beaucoup de droits pour justifier leurs actions, pour présenter comme si la France était en quelque sorte le berceau même de droits humains qu'elle doit
défendre. La patrie des droits de l'homme et des citoyens.
Aujourd'hui, on avait beaucoup ces discours. Hein.
Oui.
En même temps, ce sont des personnes pas trop scrupuleuses lorsqu'il s'agit donc de respecter les droits. Donc là, on voit très bien, n'est-ce pas? C'est pas Eichmann qui est là, mais ce sont des acteurs qui maîtrisent, qui ont le code en quelque sorte, hein, donc le droit. Ça, c'est peut-être sous-estimé, donc je fais un peu le plaidoyer, hein, un peu le militantisme, parce que souvent, dans domination, on sous-estime le droit.
Tout à fait.
Hein, ça veut dire qu'on considère que...
on va passer par-dessus.
On va passer dessus. Mais en réalité, si on voit même le concours pour entrer au Quai d'Orsay, pour l'INSAP, autrefois l'ENA, la connaissance juridique devient une sorte de marqueur même de la domination sociale. Et je pense que ça, c'est aussi peut-être parfois importante que l'infrastructure capitaliste. Bon, les deux ne peuvent pas être dissociés, bien évidemment. Hein, mais je pense que c'est une vraie... on peut dire le capital juridique est assez important pour asseoir sa domination.
Tout à fait. Ça, Bourdieu l'a bien démontré dans la
c'est
domination.
Ça.
Bien. Alors, pour en revenir à Hannah Arendt et à Eichmann, on a découvert effectivement que Eichmann avait des fortes convictions nazies après sa mort, mais il a montré un profil lors du procès que a chroniqué Hannah Arendt d'un simple fonctionnaire qui obéit aux ordres et qui a été zélé, c'est tout. Mmh. Et ça, le droit, et il, qui avait le droit pour lui, quelque part. Et ça, c'est... Quand on revoit le documentaire Eichmann à Jérusalem, on est glacé d'effroi par cette utilisation du droit. Et ça, c'est un concept que vous avez bien démontré dans votre livre, tous les deux.
Oui, je pense, une idée qui se dégage de cet ouvrage, j'espère, en tout cas, c'est qu'au fond, il y a une sorte de sacralisation du droit, dont on disait, moi j'ai lu ça, ni Dieu, ni maître, n'est-ce pas? Et là, il faut inclure les droits, qui est une sorte de maître, hein, c'est devenu une sorte de Dieu dans notre société. Et souvent, la protection du droit semble plus important
que le droit
principe
lui-même.
Que l'être humain, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Et donc, en effet, il y a le problème de condamner quelqu'un comme Eichmann sur le principe purement juridique, hein, je pense. C'est pas aussi évident, en tout cas, passer en droit positif.
D'accord. Alors, venons-en à l'actualité. La société civile est vent debout contre la loi sur la présomption d'innocence des forces de l'ordre. Votre livre tombe à point nommé pour expliquer à quel point ça fait partie des conséquences de cette utilisation et de cette sacralisation du droit. Tu vas l'expliquer pourquoi.
Oui, alors, d'excellentes critiques ont été formulées à l'égard de cette loi. Hein. Donc, on peut dire, j'ai fait très pratique comme... bien évidemment, les enquêtes ne sont plus automatiques, alors que c'est plutôt bizarre lorsqu'il y a une mort, disons, non réellement naturelle. Dans la vie civile, les enquêtes sont automatiques, et là, on dit non. Donc, on peut aussi estimer, ça a été dit, que le policier pourrait être plutôt encouragé d'utiliser, avec bonne conscience, leur arme en situation de doute. Hein. Donc, je pense que, donc, ça, c'est connu. C'est que nous pouvons peut-être apporter, c'est que bon, c'est à la fin peut-être un cas qui illustre et qui n'illustre pas totalement certaines choses, n'est-ce pas? Donc je pense que dans cette loi, ce qui n'est pas réellement, entre guillemets, respecté, c'est une sorte d'universalisme même formaliste, n'est-ce pas? Parce que on veut, en quelque sorte, extraire une catégorie de personnes,
des fonctionnaires de police,
de force de l'ordre, de droit, donc c'est même pas conforme au, disons, universalisme fictif, hein, de la loi. Donc du coup, je pense, là, ça s'explique qu'il y a des manifestations, donc d'opposition plus importante que d'habitude. Mais je pense aussi à plusieurs choses qui sont dans cette loi, qui sont illustrées dans notre ouvrage. Mm-hmm. Je pense que, premièrement, il y a là l'idée que le force de l'autre, par définition, incarne en quelque sorte la loi.
Oui.
C'est-à-dire, il y avait des discours du ministre de l'Intérieur en disant « l'ADN de nos forces de l'ordre, c'est de protéger
oui. ».
Donc c'est en quelque sorte la loi. Donc si, par
law
définition…
Law and order.
Law and order.
Comme disait ouais. l'Afrique du Sud, même, d'après
Law and order. Mais voilà, donc confusion, oui. donc assimilation. Et Walter Benjamin l'avait très bien montré dans sa
Tout
critique de violence, donc notre inspirateur en quelque sorte, que les forces de police sont aussi de sorte demi-dieu, hein, qui mm-hmm. sont de la loi en action. Donc là, il y a cette confusion-là, on voit cela dans la loi. Et on voit aussi très bien dans le raisonnement des acteurs opérateurs politiques, ce qu'on protège, c'est plutôt dans une sorte de oui, on parle de république ou de l'ordre républicain, l'un autre légal,
oui.
qui, dont la protection de la loi ou de principe semble prévaloir sur la protection de vie humaine. Donc
Tout
là,
fait.
On a de nouveau une sorte de sacralisation de droit. Et aussi, je pense qu'on peut trouver nos trois thèmes, hein, n'est-ce pas, de logique. Hein, donc on dit, voilà, on peut identifier, donc c'est dans ce projet de loi, n'est-ce pas,
oui.
on peut très bien identifier si une action correspond au principe de la nécessité de la proportionnalité, comme s'il n'y avait pas de situation d'appréciation, d'interprétation,
ouais.
dont on enlève un peu le doute, hein. Là, on revient
ouais.
à la logique. Et puis, il y a aussi cet investissement émotionnel presque de la loi, de force de l'autre, une fétichisation.
Ouais.
Et il y a une sorte de fausse universalisme, là, peut-être trop caricatural, qui est un peu la république et par définition universelle, n'est-ce pas, dans ce que faire quoi. Mais dans ce cas-là, la résistance est beaucoup plus grande que dans nos cas,
oui.
parce que probablement ce processus, cet argumentaire est plus fragile.
Tout à fait. C'est vrai que quand on a décidé d'aller bombarder la Libye, il y avait très peu d'opposition, parce que c'était l'OTAN qui était mandatée par l'ONU. Mmh. Les migrants dans la Manche, comme ce sont des illégaux, bon ben, c'est leur problème, et c'est loin de nous tout ça. On ne voit pas la violence qui a été faite à ces gens, de quitter déjà leur territoire, leur pays, par des guerres, par des famines, par des catastrophes qui sont provoquées par nos États, quelque part. Et le cheminement qu'il faut pour ces gens-là, pour arriver jusqu'à la Manche et y mourir, c'est d'une violence inouïe, de tous les instants.
Oui, ça c'est quelque chose d'horrible, et je pense là aussi les droits contribue en quelque sorte à évacuer cette complexité
voilà.
de situation, à ne pas nommer réellement ce qui se passe. Hein,
voilà.
Les souffrances de personnes, catégories, les migrants, mm-hmm. réfugiés, je ne sais pas, économiques ou en compartiment, tant leurs actions, c'est irréel, littéralement.
Oui.
Ce qui est assez frappant dans le cas libyen, on ne sait pas, ce n'est pas documenté, combien de gens
sont morts de ces bombardements.
On ne sait pas.
On ne le sait toujours pas. Voilà. Donc, La violence au nom de la loi, de Shoshana Fine et de Thomas Lindemann, mmh. qui m'a fait le plaisir de
Merci.
Venir à Radio Libertaire, chez Sciences Po Les Presses, pour 19 euros. Et vraiment, merci.
Un grand merci à toi aussi, Myriam.
Je t'en prie. On va remercier notre technicien, Karim. Qui a tout fait pour que cette émission ait lieu. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous, surtout aux forces de l'ordre. Merci beaucoup.
C'est sûr.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous me la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, quand ici ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de les mains. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse, tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage.
Merci à Mariama pour cette émission La Rage Dedans que vous retrouverez dans 15 jours. Dans 3 minutes, c'est l'heure de Radio Espéranto avec Guy et Marc, votre émission bilingue en espéranto.